Pour cette thématique, nous avons la chance de recevoir deux invités qui sont Eric Levert, ingénieur commercial chez Orange, et Fabrice Maréchal, web designer de formation.
Pour animer cette émission, nous sommes en présence de Hugo, Omran, et à la technique, nous avons JC, Jean-Jean et Vinci. Nous allons donc apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les métiers de web designer et ingénieur commercial, études, débouchés, salaires et évolutions.
Vous écoutez Prospective. J'aimerais bien entendu le chien pourri à Évreux 102.4, dans le sud de l'heure 95.9 et partout ailleurs sur Prospective.net. Prospective, le mix des cultures.
Pouvez-vous vous présenter? On va commencer par Eric.
Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Eric, Eric Lebert. Je suis actuellement à la mission locale dans le cadre d'un, ce qu'on appelle un mécénat de compétences. C'est-à-dire qu'auparavant, j'étais ingénieur commercial entreprise chez Orange. Donc, j'ai fait ce métier pendant une quinzaine d'années. Et là, dans le cadre de l'aménagement de ma fin de carrière, je suis à temps partiel à la mission locale pour accompagner les jeunes dans la recherche d'emploi et aussi les former sur les outils du numérique.
Très bien. Et Fabrice Maréchal?
Donc, vous l'avez entendu, je m'appelle Fabrice Maréchal. Je viens de changer un peu ma carrière pour des raisons de santé. J'ai dû faire une reconversion professionnelle. Donc, j'ai suivi une formation de web designer donc pour pouvoir réaliser des sites internet. Ça ouvre également des voies sur tout ce qui est le graphisme, la communication en général. Donc, ça peut être des flyers qu'on peut mettre dans la rue, des cartes de visite, beaucoup, beaucoup de contenu numérique et donc imprimable. Et pour pouvoir aménager mon poste tel que je le souhaitais par rapport à mes soucis de santé, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Ce qui fait que bah là, je n'aurai pas un patron qui me dira « tu dois faire ci ou ça, c'est moi qui décide ».
D'accord. Mais j'ai juste une question, est-ce que vous avez dit reconversion? Vous faisiez un métier qui ressemblait à le numérique ou c'était tout autre chose?
C'était pas du tout dans le métier du numérique, j'étais tourneur-fraiseur, j'ai fait 5 années d'études dans ce métier-là. Le problème, c'est que quand la santé ne va plus avec et que la médecine du travail dit qu'on ne peut pas continuer, bah, on doit trouver des solutions.
D'accord. Très bien. Alors, en quoi consiste le métier de web designer rapidement, comme vous l'avez dit à l'instant?
Le web designer, ça va être un intermédiaire entre souvent le client et un graphiste. Le client a une idée. Il demande à un graphiste de réaliser une ébauche un peu de son futur site internet ou des choses comme ça, mais ça reste qu'un dessin. Le web designer, il va prendre ce dessin, il va en faire quelque chose de concret qu'on pourra avoir sur son téléphone, sur son ordinateur, sa tablette. C'est lui qui va réaliser le réel site internet d'après les demandes du client et le dessin du graphiste. Très bien.
Qu'est-ce qu'un ingénieur commercial et quels sont vos métiers exactement?
Alors, un ingénieur commercial, moi je travaillais donc chez Orange et dans le cadre de mon activité, je travaillais sur un portefeuille d'environ une centaine de clients. Donc des clients entreprises, alors ce qu'on appelle par entreprise, c'est des clients qui ont entre 100 et 1000 salariés à peu près. J'étais spécialisé principalement dans les collectivités locales, c'est-à-dire je travaillais avec l'Agglo d'Évreux, etc. Et donc je répondais à leurs demandes pour tout ce qui touchait au numérique, à la téléphonie au sens large du terme. Et je m'appuyais également sur des compétences qui étaient un petit peu plus spécialisées, par exemple dans le domaine de l'informatique, dans le domaine du réseau, dans le domaine de la téléphonie mobile, etc.
Quelles sont vos formations que vous avez faites, Fabrice?
Mes précédentes formations n'ont pas trop d'intérêt pour mon domaine, même si ça m'apporte quand même de la rigueur. Donc, j'ai fait un BEP, un bac pro et un CQPM dans les métiers de l'usinage. Donc, c'est des métiers de précision. Et à la fois dans la conception et la réalisation de sites internet, on a besoin également de précision. Donc je garde quand même ces petites compétences et cette rigueur pour mon métier. Et maintenant, j'ai suivi une formation à la CCI d'Évreux. C'est un bac plus 2 web designer qui est fait en 7 mois. Donc c'est assez intensif. Si on veut arriver au bout, il faut quand même s'accrocher, hein, parce qu'une formation de Bac plus 2 à faire en 7 mois, si on ne travaille pas un petit peu le soir à la maison, ben on a du mal à arriver au bout quand même.
C'est quelque chose, vous disiez, complètement différent, web designer, stroner fraiseur. Comment on est arrivé, vous êtes arrivé à vous dire, tiens, je vais faire web designer. C'est une passion déjà, l'informatique, ou pas du tout? Enfin, je pense que si, forcément. Mais comment on dit, bah, tiens, je vais en faire mon métier?
Alors, j'ai toujours été plus ou moins passionné par tout ce qui touchait à l'informatique et à la technologie. Mais je me suis toujours dit que ça resterait un hobby. Parce que le problème, quand on fait d'un hobby son travail, donc d'une passion souvent, c'est qu'on peut aussi s'en dégoûter. Maintenant, je me suis dit que j'avais plus trop le choix, qu'il fallait trouver des solutions d'avenir, parce que j'allais pas juste rester chez moi en arrêt maladie à vie. Donc ce hobby, j'ai décidé d'en faire mon métier et d'approfondir un peu tout ça, les connaissances que j'ai pu acquérir par moi-même, par des recherches sur Internet, parce que maintenant, on a quand même un outil qui est super, c'est Internet. On arrive à trouver tout ce qu'on veut. À partir du moment où on a une idée, si on se donne les moyens, on peut trouver des solutions. Et donc, ça m'a paru un peu évident de repartir sur une formation autour du web.
Du coup, vous avez déjà réalisé un petit peu des sites avant, vous disiez que votre passion, vous en faisiez déjà un petit peu en dehors pour des amis, des gens qui avaient besoin de réaliser un site.
Alors, les tout premiers sites que j'ai réalisés, je crois que le premier, c'était pour moi-même, parce que je faisais également de la sono le week-end. J'étais DJ, animateur pour des mariages, des anniversaires et tout ça, et j'avais besoin d'un site pour faire cette promotion. Donc, ça ne ressemblait pas au site d'aujourd'hui. Je peux vous garantir que c'était en 2005. Ils n'avaient pas du tout le même design. C'était pas aussi beau que ce qu'on peut faire maintenant. Après, ça va peut-être parler plus aux jeunes, je jouais beaucoup aux jeux vidéo sur ordinateur, notamment Counter-Strike, beaucoup de jeux de guerre comme ça, de FPS, et on avait une grosse équipe, et donc on avait besoin d'un forum, on avait besoin de sites pour faire des recrutements, plein de choses de ce genre. Donc j'avais monté des forums en PHPBB, des choses un peu plus techniques, mais en soi, c'était déjà une première approche pour moi de réalisation de sites internet. Et maintenant, le dernier en date, ça va être le site du Rassomob, rassomob.fr. C'est une association dont je fais partie, qui s'appelle le Comptoir Chambrésien. Et tous les ans, on organise un rassemblement de mobilettes sur la commune de Chambré. Et donc, j'ai réalisé tout un site pour faire un peu la promotion et expliquer ce qu'est cet événement. Donc, toujours en n'oubliant pas de faire en sorte que ce site soit accessible sur toutes les plateformes, ce qu'on appelle le responsive, c'est un peu technique. Il faut qu'on puisse le voir sur ordinateur, sur tablette et sur téléphone et que ça reste lisible. C'est des petits points que les gens, on va dire, qui n'ont pas forcément eu de formation, ne connaissent pas forcément avec des outils de réalisation de sites comme Wix ou des choses comme ça. Ben en apparence, ça paraît joli et après, une fois l'utilisation mise en route, on se rend compte qu'il y a beaucoup de soucis.
Justement, on parlait de format tablette, téléphone, mais aussi votre premier site était en 2004-2005. Il y a une évolution du style des sites par rapport, je ne sais pas, par exemple, à une mode de police, de graphisme. Est-ce qu'il y a vraiment une mode, on va dire, de site qui se fait, qui évolue en permanence?
Ben, ça suit tout à fait les courants de la mode, autant sur les couleurs, le design, les tendances actuelles. On est tout le temps en train de faire ce qu'on appelle de la veille, donc de la recherche un peu des tendances du moment, pour faire en sorte que le site internet ou les déclinaisons qu'on en fait plaisent au plus grand nombre. Forcément, si on prend du rose fluo, c'est pas les couleurs à la mode forcément du moment. Par contre, si on fait un site pour du jeu vidéo ou quoi que ce soit, le rose fluo pourrait s'accorder avec un violet, un bleu. On en voit beaucoup dans les fonds de décors de streamers ou quoi que ce soit en ce moment.
Juste un mot par rapport à ce que vous avez dit, vous avez créé un site en 2005. C'est plus la même chose de créer un site maintenant en 2022, parce qu'il n'y avait pas de site qui pouvait nous aider à créer un site, ou comme Wix, comme d'autres sites comme Blogspot, etc. On devait créer nous-mêmes. C'était quelque chose.
Ah bah, c'était un peu plus compliqué, il fallait travailler un peu plus, parce que mon site, moi le premier que j'ai fait, je l'ai fait avec Blocknote, l'application de Windows. Forcément, on n'était pas autant assisté qu'avec les outils comme Wix, Jimdo et ces choses-là.
Juste expliquer pour ceux qui ne connaissent pas Wix, Block, enfin Blocknote, si on connaît, mais les différents types que vous disiez de, qui nous aident justement à créer des sites, là, un petit peu expliquer ce que c'est en fait, à quoi réellement ça sert.
Bah, c'est des outils directement en ligne, c'est un site internet qui en théorie permet de créer son site en 5 minutes à peu près. Où il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances en code, en quoi que ce soit. On dit qu'on veut un bouton, ben on glisse le bouton sur l'écran, on choisit la couleur, le texte, on raccorde la fonction et c'est fini. Mais il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances techniques, de codage ou quoi que ce soit.
À vous attendre, tout le monde pourrait créer un site. Donc, quel est l'intérêt en réalité d'aller voir un web designer si nous-mêmes on peut le faire?
L'intérêt d'un web designer, c'est que bah, il va apporter une expertise quand même sur la réalisation du site, sur l'ergonomie, ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, l'intégration des boutons, il faut qu'elle soit cohérente. Il y a aussi des codes couleurs à connaître pour savoir que c'est un objet cliquable et non pas juste une image. Ça va être un travail également sur le référencement. Ça aujourd'hui, c'est très important, à moins que vous ayez un gros budget à mettre dans la pub. On aime bien que Google nous mette en haut quand on recherche notre nom sans avoir à payer. C'est beaucoup de petites choses comme ça. Il y a aussi tout un aspect réglementation avec la réglementation sur les données personnelles, donc ce qu'on appelle le RGPD, les choses comme ça, les conditions générales de vente aussi pour un site de e-commerce. Et toutes ces petites choses-là sont faites un petit peu de façon générique sur ces générateurs de sites. Mais elles ne sont pas forcément appropriées à tout le monde. Et c'est bien écrit souvent en bas que ça n'empêche pas la relecture par une personne comme un avocat ou autre, parce qu'il se décharge de tout. Tandis qu'un web designer va fournir un boulot quand même qui sera abouti.
D'accord, bah merci. Et du coup, j'ai des questions pour Eric. On a parlé du numérique, de comment se développe la création de sites. Et vous, du coup, comment s'est développé? Vous avez travaillé à Orange pendant 15 ans. Donc, comment le numérique s'est développé? Quelles missions ont changé au fur et à mesure du temps?
Alors, en fait, j'ai travaillé à Orange depuis beaucoup plus longtemps que ça. Depuis 40 ans, voilà. Donc, ouais, j'étais technicien, etc. Et je suis venu au commercial il y a à peu près une vingtaine d'années pour ensuite prendre un poste d'ingénieur commercial. Donc, en fait, le numérique, j'ai connu l'avant Internet, l'après. J'ai connu l'avant téléphonie mobile et puis l'après. Donc, vous doutez bien que ça fait évoluer beaucoup, beaucoup de choses, notre façon de travailler, entre autres. Et plus récemment, le Covid, qui a forcé, je serais tenté de vous dire, l'utilisation de nouveaux outils. C'est vrai qu'auparavant, on ne parlait pas du tout de télétravail. Aujourd'hui, il y a à peu près une quarantaine de pourcents de travailleurs qui sont obligés de télétravailler. Donc, en termes de sécurité, ça a engendré beaucoup de choses, et en termes de réseau informatique également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les structures sont obligées d'avoir des réseaux sécurisés pour que les personnes qui sont chez elles puissent accéder en toute sécurité à leur réseau, à leur réseau d'entreprise. D'ailleurs, vous avez dû entendre parler de problèmes de hacking, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu énormément de vols de données dans tous les domaines, que ce soit, mais surtout les hôpitaux. Les hôpitaux, les centres de santé, etc. Pourquoi eux plus que d'autres? Parce qu'en fait, ils sont moins bien protégés. Ils ont également beaucoup de données vous concernant, au niveau votre âge, etc., votre profession, et tout un tas de choses. Quoi. Voilà. Et donc, mon métier, c'était aussi de proposer des solutions sécurisées d'accès à distance pour que tout se passe dans le meilleur des mondes.
D'accord, du coup, on vient à la deuxième question, c'est quelles étaient les demandes des consommateurs, du coup, ou de l'entreprise pour laquelle vous travaillez? Donc, c'est surtout sécuriser, en fait, les informations des travailleurs, c'est ça?
Voilà, tout à fait. En fait, j'ai travaillé aussi avec la Godévreux. On est en train, d'ailleurs, de finir de déployer un réseau d'interconnexion de tous les sites de l'agglo. Alors, quand je parle de sites, ça va être les centres distants, ça va être les maisons diverses et variées, les associations, etc. Donc, en fait, le but, c'est de leur fournir un moyen de partager l'information entre ces différents sites de façon entièrement sécurisée. Et également, que l'information puisse être accessible aussi depuis les téléphones mobiles. Aujourd'hui, un téléphone mobile ne sert plus qu'à téléphoner, hein, de moins en moins d'ailleurs, mais c'est aussi un moyen d'accéder à l'information d'entreprise en mobilité.
Voilà. D'accord, merci beaucoup.
J'ai une autre question pour vous deux. Quelle est la différence entre le numérique et la nouvelle technologie de maintenant ? La nouvelle technologie.
Bon, le numérique, on va dire, c'est plutôt un terme générique. Le numérique, ça touche notre quotidien tous les jours. Aujourd'hui, quand on parle de numérique, ça va être bien évidemment tout ce qui va être téléphonie mobile, smartphone, PC, mais de plus en plus, ça va être aussi les objets connectés.
La 5G.
Pardon ?
La 5G, par exemple.
La 5G, alors la 5G, en fait, va toucher, enfin, va apporter beaucoup plus de nouveautés dans les entreprises que pour le grand public. Alors évidemment, ça va 10 fois plus vite, mais c'est surtout la possibilité pour les entreprises de développer des robots, de développer les voitures autonomes, etc. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, la 5G a un temps de réponse qui est beaucoup plus faible que pour la 4G. C'est-à-dire que clairement, l'information remonte instantanément. Et on va avoir de plus en plus d'objets connectés. Il y en a déjà énormément. On parle de capteurs de CO2 en ce moment pour le Covid dans les écoles, par exemple. Donc ça, c'est des capteurs qui remontent l'information. Mais on a aussi, des capteurs dans les chaussées pour prévenir du gel. Ça va être des capteurs aussi pour les éclairages publics qui s'éclairent, par exemple, uniquement quand quelqu'un va approcher. Remonter toutes ces informations et puis aussi de façon un peu plus ludique. Je ne sais pas si vous voyez la pub d'Apple en ce moment. Voilà, quelqu'un qui est dans un bois, qui a eu un accident, il y a une remontée d'informations. C'est un objet connecté également. Donc il faut du réseau, il faut un objet, il faut centraliser l'information, la sécuriser et puis la retransmettre à qui de droit.
D'accord.
Moi, j'ai une question. En fait, il n'y a pas vraiment de différence. Aujourd'hui, le thème, c'est donc les métiers du numérique et leur importance dans notre vie. En réalité, les métiers, il n'y a pas des métiers en particulier du numérique parce que le numérique concerne tout aujourd'hui, non ?
Bah oui, en fait, le numérique, comme je vous le disais, c'est quand même un terme très générique. Aujourd'hui, un technicien dans une entreprise qui s'occupe de la maintenance des machines est directement impacté par le numérique aussi. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Pourquoi ? Parce que la machine va être connectée, elle va pouvoir remonter des informations, des pannes, etc. Il va pouvoir aussi réparer en étant aidé à distance via des lunettes 3D, par exemple, ce genre de choses, hein, ce qu'on appelle la réalité augmentée. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Enfin, voilà, il y en a énormément d'exemples de ce type-là. Même un décorateur, aujourd'hui, il va utiliser la 3D, il va utiliser toutes ces nouvelles technologies pour être plus performant, pour être plus proche de la réalité aussi.
D'accord. Donc, en fait, il n'y a plus trop de métiers sans le numérique, en réalité.
Demain, il n'y en aura quasiment plus, quoi. Il y en aura même quelqu'un qui est serveur dans un bar. Vous voyez, maintenant, ils ont des tablettes pour passer les commandes.
Des QR codes pour la recette.
Ouais. D'accord. Tout à fait.
OK. Donc, c'est tous les métiers du numérique. En fait, c'est tous les métiers. Donc là, aujourd'hui, on parle de tous les métiers. Tous les métiers.
Quasiment. D'accord. Voilà, quasiment tous les métiers, aujourd'hui, sont impactés avec le numérique.
Je vous propose, Jean-Jean, de lancer une petite pause musicale. Non ? Allons, on lance ça.
Baby blue, just like we were. When I get up off this ground, I should leave back down to the brown, 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 till I'm clean. When I walk, I'll be shaded by the I'm gonna see you black.
D'entendre Colors de l'artiste Black Pumas.
Tiens, Jackie, j'ai reçu ton ordinateur.
Principe actif, le ministre des Cultures.
Quelles sont vos formations que vous avez faites?
Alors, les formations, en fait, dans le cadre de mon métier, c'était plutôt de la formation continue. C'est-à-dire que je n'ai pas regardé réellement, mais par année, je pense que je devais avoir un mois et demi à peu près de formation sur les nouveaux produits, sur les nouvelles technologies, etc. Pour toujours être au fait des nouveautés et aussi commercialiser les nouvelles solutions et les proposer à mes clients.
Merci. Et quel genre d'horaire faites-vous, Fabrice ?
Pour les horaires, l'avantage d'être à son compte, c'est qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, mais il faut aussi se donner une certaine rigueur. Si tu as envie de monter ton entreprise et que tu te lèves à midi et que tu finis à 16h tous les jours, tu vas avoir du mal à payer les courses et tout ça à la fin du mois quand même. Ça va être dans l'autre sens, à la fois ça peut être cool parce que tu peux finir des fois tes journées plus tôt ou quoi que ce soit, mais si tu as un boulot à rendre des fois un peu urgemment, tes week-ends ils peuvent y passer. Alors que quand tu es simplement salarié, tes 35 heures sont faites et puis tu peux rentrer chez toi. Et là, non, faut pas vraiment compter ses heures, faut plutôt viser un objectif avant de regarder les horaires que tu fais.
Est-ce que c'est pas difficile de réussir à faire la coupure du travail et de la vie personnelle quand on est vraiment à son compte, qu'on travaille de chez soi?
Alors ça peut être difficile pour certaines personnes. La chance que j'ai, je pense que c'est une chance, c'est d'avoir une compagne qui ne veut pas que je continue de travailler trop des fois. Il faut passer du temps aussi un petit peu, se détendre, faire cette coupure. Parce que sinon, après, c'est tout ce qui est burn-out et tout ça, les gens peuvent devenir complètement fous. Mais c'est vraiment important de prendre aussi un peu de temps pour soi, pour ses proches, puis de se détendre, comme on dit.
Du coup, ça représente à peu près combien d'heures de travail quand on travaille sur un site web tout nouveau ?
Alors, chaque cas est différent, mais un site internet peut être réalisé en une semaine, on va dire. En temps de travail, ça va être quoi ? Peut-être 70 heures, voire 80, voire plus. c'est rarement moins parce qu'on passe notre temps à ajuster des choses, à corriger des bugs, à refinaliser, à regarder. C'est très important que le client ait vraiment un produit fini, donc il ne faut pas réellement compter ses heures là-dessus. Bah après, donner un temps précis, chaque cas est différent.
Très bien. Diana, tu voulais...
Oui, du coup, bah, en fait, l'action, c'est vraiment, est-ce que quand vous avez fini votre formation, vous avez tout de suite trouvé du boulot? Parce que là, en fait, vous, dans votre cas, c'est vous êtes auto-entrepreneur.
Oui.
Donc, comment ça se passe, en fait, quand on est auto-entrepreneur? Comment on va chercher les clients? Comment on fait sa pub? Expliquez-nous un peu.
Alors, la meilleure des pubs, ça vaut pour tous les métiers, c'est le bouche à oreille. Donc, on a tous, sans forcément le savoir, ce qu'on appelle un réseau. Le réseau, ça peut être d'autres familles proches, les cousins, les amis, et toutes ces personnes-là connaissent d'autres personnes. Tout ça, ça fait un réseau, un peu comme la toile d'Internet. Il faut s'en servir de ce réseau, parce que ça ne sert à rien de faire 10 000 flyers et les distribuer dans tout Évreux. Les gens ne nous connaissent pas pour autant et ne vont pas nous accorder comme ça leur confiance. Donc en utilisant ce réseau, avant même que j'ai ouvert mon entreprise, j'avais déjà des demandes. Alors que concrètement, je n'avais rien demandé, mais simplement de parler avec ses proches, de dire qu'on a suivi telle formation pour faire ci, ça, ça. Et ben les gens disent, mais attends, je connais quelqu'un qui a besoin d'un site, ou même moi j'ai besoin d'un site, j'ai besoin d'une affiche, ou même ben, mon association avait besoin de quelqu'un pour réaliser un site internet, des affiches, des flyers. Et ce réseau, ça va être ça, je pense, le plus utile pour développer son entreprise. Après, bien entendu, si on veut une cible client particulière, bah, toujours avoir peut-être une petite carte de visite sur soi et d'aller faire du démarchage. C'est pas simplement prendre son téléphone et l'annuaire et d'appeler des entreprises. Le mieux, c'est quand même d'aller rencontrer les gens et de vraiment écouter leurs besoins. Parce que à la fois, ils ont besoin de conseils, mais avant tout, il faut savoir de quoi ils ont besoin. Donc, il faut écouter également les futurs clients.
D'accord. Et en termes de prix, là, on a parlé du temps que ça met de de créer un site. Et combien ça coûte, en réalité, de créer un site aussi? Parce que 80 heures, ça n'a pas coûté 200 euros, quoi.
Une fois encore, tout est relatif. Ça va dépendre du type de site internet, parce que tous ne demandent pas le même travail. Une boutique en ligne, ça va être compliqué de faire ça à moins de 2000 euros. Parce que c'est beaucoup plus de travail qu'un simple site vitrine. Un site vitrine, c'est l'équivalent d'un dépliant, un flyer qu'on pourrait avoir dans la rue, où on a toutes les informations de l'entreprise. Mais techniquement, c'est beaucoup plus simple pour un web designer à réaliser. En revanche, après, chacun a ses process pour appliquer ses prix. Certains se font payer à la journée, certains se font payer à l'heure. Moi, j'ai plutôt tendance à faire des forfaits parce que ça me paraît un peu plus honnête envers le client. Le client, lui, il veut payer un site internet, il ne veut pas payer des heures à quelqu'un. Donc, on estime à peu près à combien de temps on va passer à l'avance. Et puis, un site internet, moi actuellement, je suis sur une offre d'appel où je propose les sites à 500 euros, mais ce n'est pas dans le but de casser les prix. Le but de cette offre, c'est un site abordable, mais avec un engagement de 2 ans pour la maintenance, les mises à jour et tout ça au client. Tous les mois, après, on rajoute 125 euros pour toute cette maintenance. Un site vitrine classique, normalement, on est au minimum à 1200 euros. Donc, il ne faut pas non plus dévaloriser son travail. Ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est de vite me faire un carnet de clients qui, eux, en plus, vont être satisfaits, je pense, parce qu'ils vont faire une économie par rapport au budget habituel, mais ils vont peut-être avoir d'autres choses à me demander de réaliser, des cartes de visite, des flyers, une enseigne, que sais-je.
D'accord, merci.
Oui, si je peux intervenir, donc dans mon précédent métier, je commercialisais également des sites internet via une filiale de chez Orange, à destination des clients entreprises, donc des clients assez gros, et le budget, je dirais, était entre, on va dire, 6 et 30 000 euros, à peu près.
Ah oui, quand même.
Voilà, pour des collectivités relativement importantes. Hein. Voilà, des sites quand même assez élaborés.
Là, on est plus sur des sites, effectivement, à gros budget, où le site va être entièrement codé et développé à la main, alors que forcément, pour un site vitrine du boucher du coin, on va avoir plutôt tendance à proposer ce qu'on appelle un CMS. Donc, c'est Alors, ce n'est pas encore l'équivalent des Wix et des choses comme ça, mais c'est un outil qui permet de réaliser un site assez design et fonctionnel plus facilement, plus rapidement, et qui permet de proposer un prix correct aussi au petit commerce. Parce que vous imaginez bien que le boucher à côté, il n'a pas entre 5 et 30 000 euros.
C'est un peu comme les templates, quoi. Non.
Ah, c'est encore autre chose. Le template, effectivement, il arrive, il est tout fait, on met notre photo, notre texte, alors que les sites en WordPress, il existe des templates, mais ce n'est pas personnalisé tel que pourrait le vouloir le client.
Le template, je ne connais pas ce terme, une petite explication.
Le template, pour simplifier, on pourrait appeler ça un thème tout fait.
Un modèle tout fait.
Voilà.
Ouais, en français, c'est vraiment le modèle tout fait. Après, il y a à mettre sur toutes les touches, les photos, le texte. Donc, c'est le déjà tout fait.
WordPress, qu'on disait.
WordPress, effectivement, on peut trouver un thème de site déjà réalisé à l'avance et on n'a plus qu'à mettre notre texte, nos photos et puis l'utiliser. Moi, ce que je propose, j'espère que ça plaira un peu plus aux clients, c'est de réaliser un thème. Mm-hmm. Pas qu'ils aient celui que le boulanger et le boucher pourraient avoir le même, en fait. L'idée, c'est que chacun puisse avoir son identité visuelle, graphique. Et forcément, les grosses entreprises, eux, ont un budget pour se démarquer et avoir quelque chose de beaucoup plus abouti.
Bien personnel.
Personnel et aussi, ils peuvent travailler également, effectivement, sur la sécurité, comme on disait tout à l'heure. Parce que le problème de ces sites comme les WordPress, c'est qu'au niveau sécurité, en fonction de ce qu'on a y stocké, ça peut des fois poser problème. Mais il ne faut pas les dénigrer à 100%. Le site de la Maison Blanche, c'est un WordPress.
Le site de la Maison Blanche, à Washington,
c'est
WordPress.
Oui.
Ah oui, d'accord. Moi, j'ai une question. Admettons aujourd'hui, il n'y a pas de web designer, tout comme ça. Est-ce qu'on peut passer du numérique? Genre, on peut faire une vie sans Internet, sans réseaux sociaux, etc.
Ah si on a envie d'aller vivre, je ne sais pas, au fin fond de la Creuse, dans une cabane, on pourrait.
Jusqu'à là.
Je pense que le numérique, aujourd'hui, il est partout. Il est partout. Maintenant, il y a les montres connectées, il y a le téléphone.
Alors, quelqu'un qui n'a pas de montre connectée, qui n'a pas de smartphone, qui n'a rien à part quelque chose, on va dire un téléphone, un vieux téléphone presque.
Même les impôts, maintenant, on a besoin du numérique. Tout se fait sur Internet. Pôle emploi, c'est du numérique. La CAF, ils utilisent aussi le numérique.
On a maintenant que le numérique.
Oui. Les impôts, c'est, je pense, un des meilleurs exemples. C'est qu'à partir du moment où on a accepté de faire nos déclarations une fois en ligne, ça reste en numérique.
D'accord.
On ne peut pas revenir au format papier. Le numérique est partout et on n'a pas le choix.
Si on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc, j'avais dit réseaux sociaux. Donc, le numérique inclut les réseaux sociaux comme Insta, Snapchat, Facebook.
Je pense que
c'est un plus.
C'est un plus ou un moins, parce qu'on aime ou on n'aime pas. Moi, je ne suis pas un grand fan de réseaux sociaux, même si j'adore le monde du numérique. Dévoiler toute notre vie sur Internet, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Ça, c'est une autre question. Je sais que c'est la tendance actuelle, mais moi, j'ai un Facebook que je garde uniquement pour être en contact avec certains membres de ma famille qui peuvent être éloignés. Mais faut pas espérer me voir sur Instagram, Twitter ou TikTok. J'ai pas le temps pour tout ça.
Sur Facebook, maintenant, on peut créer des sites, des pages, pardon.
Oui, mais tout le monde n'a pas Facebook.
Non.
C'est vrai que les petites entreprises peuvent se créer une page, faire leur promotion. Mais tout le monde n'a pas Facebook, donc tout le monde ne peut pas accéder à cette page. Alors qu'un site web, tout le monde peut y aller.
Ou pas.
Au fin fond de la Creuse, a priori.
Ah, pas.
Désolé pour les gens de la Creuse.
Bonjour.
Le Covid a-t-il accentué ce besoin du numérique, surtout dans le besoin matériel?
Oui, tout à fait. J'ai eu, il y a 2 ans, quand j'étais encore sur mon poste, et donc quand le Covid est arrivé, j'ai eu plein de clients qui m'ont dit, demain, je mets tous mes salariés en télétravail. Donc, vous doutez bien que les gens n'avaient pas spécialement de PC portable. Donc, il y en a qui sont trimballés avec des tours, des écrans, etc. Et après, il fallait sécuriser tout ça. comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, ça a créé des failles de sécurité dans les systèmes, parce qu'il y en a qui ont fait ça, bah, je dirais, sans trop de précautions ou quoi que ce soit, et du coup, il y a eu beaucoup de cyberattaques ciblées, hein. On peut parler d'Hébreux, mais il y a eu aussi le CHU de Rouen, qui a été, je crois que pendant 48 heures, les urgences n'ont pas pu fonctionner. Enfin, vous voyez un peu le, je dirais, la gravité de ce genre d'attaque, ce qu'on appelle du ransomware, hein, c'est-à-dire qu'ils bloquaient les systèmes d'information et demandaient une rançon, et tant que la rançon n'était pas payée, ils ne pouvaient pas débloquer en fait les données. Donc voilà, c'était quelque chose de... Il a fallu être très réactif, il a fallu déployer des tas de solutions, justement, pour effectuer du travail à distance. Et il y a un domaine aussi qui rejoint ce que fait Fabrice. Vous avez dû voir fleurir ce qu'on appelle des marketplaces. Donc, ce sont des sites Internet aussi qui ont mis en avant les petits producteurs ou des restaurateurs qui, du jour au lendemain, ne pouvaient plus exercer leur profession avec pignon sur rue. Et donc, qui ont utilisé des sites internet pour pouvoir vendre, pour pouvoir vendre en ligne, pour pouvoir aussi promouvoir leurs produits. Et ça, c'est bien resté. Et je pense que c'est quelque chose qui restera dans le temps, c'est-à-dire essayer d'acheter local grâce justement à ces marketplaces, des places de marché virtuelles hein, qui aujourd'hui permettent à pas mal de petits producteurs de vendre directement leur production.
J'ai juste une question sur ce qui s'est passé par rapport au pompier, qu'il y a eu un blocage d'appels, piratage. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution encore plus pour augmenter la protection, d'éviter que les aides de hacking, tout ce comme ça, fait par les hackers? Ça sera en fait là, aussi les consoles ou YouTube, par exemple.
Alors en fait, la sécurité Internet, je dirais, je compare ça à un mur. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous mettez juste une marge de 10 cm autour de chez vous, n'importe qui rentrera chez vous. Si vous montez un mur de 1 mètre, ce sera déjà plus difficile. Si vous montez un mur de 2 mètres, ça sera encore plus compliqué. Et ainsi de suite. Mais je dirais que la sécurité à 100% n'existe pas. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans 60% des cas, c'est lié à une mauvaise manip d'un salarié. C'est-à-dire quelqu'un qui va recevoir un mail ou quoi que ce soit, qui n'a pas fait attention. Et qui va comme ça déclencher en fait les outils qui permettent au hacker de prendre la main et de puiser les données ou de bloquer les données. Donc ça, dans 60% des cas, ça vient de l'humain, ça vient pas d'un défaut machine. Et puis après, sinon, vous avez des gens spécialisés dans le domaine qui vont rechercher des failles de sécurité dans Windows, dans des firewalls, dans tout un tas de systèmes pour pouvoir rentrer et après demander des rançons. Voilà. Et ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ce métier de cybersécurité, c'est vraiment un métier d'avenir. Il y a les formations réelles de cybersécurité commencent, mais c'est quelque chose qui va être de plus en plus demandé. Hein. Donc la plupart du temps, c'est des gens qui sont autodidactes, qui ont peut-être commencé par être hackers, pour ensuite travailler dans des domaines de cybersécurité. D'ailleurs, Orange a un gros centre à Rennes, hein, où il y a 3000 personnes à peu près, où ils visualisent en permanence ce qui se passe sur tous les réseaux de nos clients.
Eh bien, je vous propose c'est de faire une deuxième pause musicale et puis on revient juste après.
Cette petite chanson aux ouvriers de la nation, aux ouvriers au polo tous les matins, en déplant ton cocard de corps rigole. Ça fait longtemps qu'ils dégringolent et broyés dans l'alcool idole. C'est changé en pigeon, et là des pierres à l'heure, en haut du syndicat. Tantôt par la nature et témoin sans étoile, t'as pensé plus pour une fourrure, t'as donné sa vie sans récipient, c'est dans l'oubli et les ordres qui vont tomber. Et là pour convenir, lui qui vit sur le toit du monde, pauvre d'un coup sur son avenir, la fin de la route au pied de la tombe. Donc pourquoi corriger le tir quand tout va bien pour la tirelire, quand on craint plus les tirs de fond qu'on fait le même coup de la tirelire. Et là, les tirs à l'heure, en haut de sa vie, quand tu es pas la nature et témoin de son étoile, qu'à prendre ses plumes pour une fourrure, pour les services sans rue qui pointe, dans l'oubli et les ordures qui vont tomber. Il est plus beau sur son arbre perché, comme un corbeau, fromage et beaujolais, caché les autres de son plumage et son train de vie à converser, jusqu'à réduire en esclavage ceux qui se lèvent pour le garder. Il a vécu à l'heure, en haut de sa vie, quand il parle, il a été moins de son corps, car il se plume pour une fourrure, comme sa vie sans même s'y croire, c'est dans l'oubli et les ordures qui vont tomber, le corps. Sans son cri, seul en tête, emmène le peloton à la tête. Mais fais gaffe à ceux qui s'entêtent de voir un jour la vie en tête. Et là, avec cœur à l'heure, en haut de sa vie comme quand tu parles, la sueur est témoin de son effort. Car quand c'est plus une peau, une fourrure, de sa vie sans le petit pas, c'est dans le vie et les enjeux qui les tombent. Le pas.
C'est Le Coq de Captain Park et Royal Company.
Vous écoutez Prospective à Évreux 102.4 dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur prospective.net. Prospective, le mix des cultures.
Il doit y avoir un système. T'as l'heure que tu l'as ouvert. Je sais pas sur quoi t'as appuyé, t'as l'heure que tu l'as ouvert.
Nous sommes toujours à la mission locale avec nos deux invités qui sont Éric Lebert, ingénieur commercial chez Orange, et Fabrice Maréchal, web designer de formation. Ma deuxième question, c'est pensez-vous que les jeunes sont assez formés sur le numérique, Éric?
Alors, je vais répondre, c'est Éric. Donc en fait, si je pensais, je ne serais pas là. Alors, on a fait un sondage par rapport à tous les jeunes qui viennent à la mission locale, entre autres. Et en fait, il y en a 30% qui n'ont pas d'ordinateur chez eux. Donc ça, c'est une réalité. Hein. Il y a eu à peu près 120, 130 réponses. Donc voilà, la réalité, elle est là. Alors c'est vrai, quand on demande aux jeunes, êtes-vous à l'aise avec le numérique, ils vont tous dire oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, ils ont leur smartphone, ils vont sur les réseaux sociaux, etc. Mais le numérique, c'est pas que ça, en fait. La plupart ne savent pas utiliser un ordinateur. Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'on propose maintenant des ateliers sur le numérique, hein, pour qu'ils puissent vraiment appréhender la souris, utiliser l'ordinateur, faire des recherches internet, etc., à travers vraiment d'un poste de travail. Voilà. Donc clairement, moi j'étais surpris, hein, je pensais qu'il y en avait beaucoup plus que ça qui étaient à l'aise, et a priori, bah non. Voilà.
Et vous, Fabrice?
Alors, je pense qu'ils ne sont pas formés. En fait, c'est pas parce que vous l'utilisez que vous êtes formés. Vous êtes tous sur les réseaux sociaux, vous utilisez tous effectivement votre téléphone pour aller sur Internet, mais vous n'êtes pas formé. Si je vous demande de faire un site Internet, vous n'allez pas savoir forcément le réaliser. Par contre, vous savez peut-être l'utiliser. Et effectivement, la majorité des utilisateurs maintenant des sites Internet et autres utilisent uniquement leur smartphone. D'où l'importance effectivement des métiers de web designer et autres qui font des sites qui s'adapte à toutes les tailles d'écran, parce que autant moi je vais beaucoup utiliser mon ordinateur, mais effectivement la majorité des gens vont l'utiliser sur le téléphone. Il faut que ça reste accessible sur tous les supports. Mais en soi, la formation, est-ce que vous avez besoin d'être formé pour utiliser un téléphone ou un ordinateur sur des choses plus simples? Effectivement, pour un Excel, un Word ou des choses comme ça, peut-être qu'une petite formation peut être utile. Mais pour aller sur Facebook, je ne pense pas que vous ayez besoin d'être formé.
Oui, ben moi je pense qu'aujourd'hui on retrouve quand même une certaine lacune au niveau. Je sais que moi j'avais un commerce et j'ai reçu des jeunes de 17-18 ans. Et je me suis rendu compte que les choses dites basiques, par exemple aller sur le drive, créer un dossier, pour moi c'est basique parce que je l'ai appris en études sup. Mais ça, en fait, même ça, les jeunes ne savent pas. Donc est-ce qu'on devrait quand même formés à un minimum, bah, le basique, Excel, Word. Moi, j'avais des cours quand même de recherche. Je me disais, oh, bah, c'est bête, je sais qu'à taper sur Google. Mais non, en fait, il y a une façon de taper sur Google par rapport au référencement, comme on a parlé tout à l'heure. Apprendre aux jeunes vraiment à comment manier en fait cette interface numérique.
Alors sur ça, je suis plus ou moins d'accord. C'est, effectivement, tout le monde ne sait pas le faire, mais est-ce qu'ils en ont besoin ? Beaucoup de gens ne passent pas le permis de conduire parce qu'ils vivent que dans une grande ville et qu'ils prennent que les transports en commun. Ils n'ont pas passé le permis. Donc pour le numérique, oui, c'est bien d'être formé. Moi, je défendrai toujours ça parce que j'ai besoin que des gens aillent sur mes sites. Hein. Mais est-ce qu'ils ont besoin d'être formés sur des choses aussi poussées, effectivement, la suite Office, des choses comme ça, ou savoir retoucher une petite photo, des basiques, c'est bien pour tout le monde, mais tout le monde n'a pas besoin d'être ingénieur pour autant.
Oui, c'est sûr. Et du coup, pour moi, la question, c'est, comme on a dit tout à l'heure, aujourd'hui, le numérique nous entoure. Hein. Le numérique, c'est tous les métiers. Tout. Qu'est-ce qui se passe ? On parlait des impôts tout à l'heure. S'il y a une panne générale, la fin du monde, prenons l'exemple, voilà, plus d'internet, plus rien, comment on fait ? Est-ce qu'on a une alternative ? Comment ça se passe ? Tout est sur, l'interface numérique, donc comment ça se passe ?
Alors là, je ne sais pas, hein. J'espère pas que ça arrivera, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment très dépendant de l'internet. Autant avant, quand il n'y en avait pas, on savait s'en passer parce qu'on ne connaissait pas et on ne l'utilisait pas. Aujourd'hui, je pense que ça serait pire, je ne vais pas dire pire qu'une guerre nucléaire, mais pas loin. En fait, la société serait complètement bloquée. En fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est, je parlais des dangers tout à l'heure, alors bon, c'est vrai que je ne veux pas être d'avoir l'esprit catastrophe systématiquement, mais je pense que les jeunes, s'ils étaient un peu plus formés sur l'internet, ils connaîtraient également les dangers de l'internet. Et ça, c'est très grave, parce que vos données sont personnelles, il y a des choses que vous ne devez pas divulguer, voilà, tout simplement. Et puis, on parlait des formations. Aujourd'hui, 70% des recruteurs envoient les offres d'emploi par le web, via des sites style LinkedIn, etc. Donc, un jeune qui ne sait pas faire son CV, c'est compliqué, quoi. Voilà, c'est compliqué. Et demain, il faut qu'il y ait aussi l'esprit ouvert par rapport, justement, à toutes ces nouvelles technologies. Mais voilà, il faut vraiment insister sur les dangers de l'Internet, bien en prendre conscience. Et si on ne connaît pas, si on n'est pas à l'aise avec les outils numériques, si on ne connaît pas les dangers, on ne saura pas s'en prémunir.
D'accord, merci beaucoup.
J'ai une question. Dans quel genre de lieu travaillez-vous ? Est-ce que vous travaillez chez vous, ou vous travaillez dans une entreprise, ou vous travaillez, par exemple, dans une autre entreprise qui n'est pas, le lieu où vous travaillez ?
Moi, de mon côté, j'étais relativement indépendant, hein, étant commercial. Le but, c'était d'être le plus possible chez mes clients. Donc, en fait, j'étais quasiment tout le temps en rendez-vous clientèle. Et sinon, je travaillais, alors j'avais un bureau, bien évidemment, et puis je travaillais aussi régulièrement de chez moi, ou je rentre de rendez-vous, pourquoi pas, la terrasse d'un café. Hein, j'avais tous les outils pour pouvoir travailler en totale autonomie. Et puis le téléphone, etc.
Pareil, Fabrice, vous travaillez chez vous ou travaillez dans un bureau ? Ça nécessite un bureau loin de...
Alors moi, je travaille depuis chez moi parce que j'ai un superbe ordinateur à la maison qui me permet de bien travailler. Mais en soi, je peux travailler n'importe où en prenant simplement un ordinateur portable et mon téléphone. C'est l'avantage de n'avoir besoin en quelque sorte que d'un ordinateur pour travailler, c'est qu'on peut se mettre où on veut. Vivement cet été, que je puisse aller travailler en terrasse moi aussi.
D'accord. Bon, je vais poser la question. Quel niveau de salaire avez-vous ?
Ah ouais, c'est la question fatidique. Alors, le salaire, quand vous parlez de salaire, ça va être pour quelqu'un de mon âge ou pour un débutant dans le métier ?
De tout.
D'accord. Donc, la rémunération est à peu près de 40 kilos euros par an.
40 kilos ?
40 000 euros par an.
D'accord. J'ai cru entendre kilos.
Oui, kilo. Oui.
D'accord,
kilo. C'est le poids des billets.
Ah oui. J'apprends-nous, là, ici, dans l'émission de cerveau. Très bien. Donc, 40 kilos d'euros.
Voilà, donc en fait, le recrutement aujourd'hui sur le même type de métier, c'est au niveau Bac plus 5 avec 3 ans d'expérience. Et les salaires d'entrée sont aux alentours de 40 000 euros par an, hors prime de vente.
D'accord, 40 kilos d'euros. Et vous, Fabrice, c'est en kilos ou c'est en mètres ?
Pour l'instant, moi, c'est plutôt dans le vent parce que mon entreprise vient d'être créée. Donc, il faut d'abord faire rentrer de l'argent avant de parler de revenus.
Hein. D'accord. Bon.
c'est réel parce que je me dis 40 000 euros en entrée, ça fait quand même 3 000 euros par mois. C'est juste à l'entrée. Je me dis, avec le Covid, il y a moins de boulot et les salaires ont tendance, les négociations ont tendance à être plus compliquées. Est-ce que vraiment on peut espérer avoir 3 000 euros par mois juste en sortant? Parce que j'ai plein d'amis qui ont bac plus 5 et qui ne trouvent pas à moins de 2 000 euros. Hein. C'est vraiment très très dur en ce moment. Donc je me dis.
En fait, c'est des profils bien spécifiques parce que il faut avoir un profil commercial, mais aussi un profil technique très poussé. Beaucoup de connaissances dans le domaine de l'informatique, de la sécurisation, du réseau, etc. Et il faut, en général, je vous dis, les personnes qui ont été recrutées dernièrement chez nous, elles ont minimum 3 à 4 ans d'expérience pour pouvoir faire ce métier-là. Donc, c'est des salaires qui sont tout à fait logiques dans le domaine et qui sont même... moins important chez Orange que ça peut l'être chez d'autres prestataires.
D'accord, donc 3 à 4 ans d'expérience en sortant du bac plus 5 ou...
Oui, tout à fait. Ouais.
C'est possible. Mais on dit 3 à 4 ans d'expérience.
C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui sont recrutées aujourd'hui, c'est des personnes qui ont eu un bac plus 5 d'ingénieur et qui ont 3 ans d'expérience dans une autre entreprise, par exemple, sur le même style de métier, on va dire.
Donc, on fait de l'alternance aussi, parce que c'est pas
en
général, quand on a la chance de faire l'alternance, d'avoir une entreprise, effectivement, on a plus de chances d'avoir un bon salaire et un bon job en sortant.
D'ailleurs, Orange a annoncé un recrutement d'environ 8 000 personnes dans les 2 prochaines années. Donc, s'il y en a qui veulent s'engager dans ce domaine, ou le domaine de la cybersécurité, c'est vraiment des vecteurs qui sont porteurs aujourd'hui. Il ne faut pas hésiter.
D'accord. Merci.
Dans quelle commune ou ville y a-t-il le plus de demandes?
Est-ce qu'au fond de la Creuse, il y a plus de demandes?
Alors, au niveau des demandes, moi, je travaillais sur un portefeuille de clients bien spécifique, sur une centaine de clients, exclusivement à une heure autour d'Évreux. Donc, compliqué, en fait. Chaque région, chaque commune a ses propres besoins. Donc, je ne saurais pas trop répondre précisément à votre réponse. Effectivement, il y en a qui sont plus engagés dans la transition numérique, on va dire, par rapport à d'autres. Mais comme je le disais tout à l'heure, en fait, le Covid a boosté énormément l'évolution et la façon de travailler. Donc, du coup, aujourd'hui, tout le monde a besoin de pouvoir faire du télétravail, de pouvoir sécuriser ses informations.
Moi, je verrais peut-être le problème différemment. C'est plutôt que de chercher où sont les demandes, chercher où sont les besoins et trouver des solutions. Je pense que là, la question était un peu prise à l'envers. C'est bien de répondre à la demande de certaines personnes, mais souvent, les startups, les choses comme ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils analysent un besoin. De quoi, demain, on aurait besoin? Et ils essaient de trouver une solution. Donc, on crée une demande. Pas simplement aller voir où il y a une demande, parce qu'effectivement, chaque secteur d'activité a des demandes différentes.
D'accord, bon, maintenant nous avons les bons plans du mois. Le pass culture, vous avez envie d'aller au théâtre, voir un film ou un spectacle, de prendre des cours de piano, acheter un roman ou un manga, ou même un magazine, écouter et acheter des CD, écouter de la musique en ligne, et vous pouvez le faire maintenant grâce à ce pass. Dès l'âge de 15 ans, vous pouvez bénéficier de ce pass, 20 euros pour les jeunes de 15 ans, 30 euros pour les jeunes de 16 et 17 ans, et 300 euros pour les plus de 18 ans. Ce pass culture se trouve sur Google Play et Internet.
Eh bien, on termine l'émission. Cette émission était riche en informatique, en information. J'espère que vous en avez appris autant que nous, chers auditeurs et auditrices. Un grand merci à nos invités pour leur intervention. Fabrice Maréchal, web designer de formation. Et vous avez un master, c'est ça?
Non.
Ah c'est écrit sur la feuille, master de formation.
Non, parce que le seul master que j'ai, c'est un camion.
Ah,
c'est un Renault master. Je suis webmaster.
Merci à la personne qui a écrit.
Plus de web designer.
Ah, merci.
Mon entreprise que je viens de monter, ça s'appelle Objectif Web.
Très bien. Et Eric Lebert, qu'on se retrouve souvent à l'émission locale. Donc, ingénieur commercial, c'est Orange. Donc, voilà.
Tout à fait. Non, c'est bien ça. Je dirais maintenant dédié à la mission locale pour accompagner les jeunes. Voilà.
Très bien. Donc, c'était l'émission locale dans les locaux de la mission locale d'Évreux. Rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro.